Bonjour à tous, alors nous sommes sur Radio Campus, donc 106.6 FM. Nous sommes derrière la vitrine, l'émission des syndicalistes des universités lilloises. Donc aujourd'hui autour de la table, il y a... vous présentez-vous.
Bien, Jean-Marc pour la CGT, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus et bienvenue dans cette émission derrière la vitrine, quatrième du nom.
Il y a Moussa également, donc de la FSU, SNESUP plus exactement, donc pour les collèges des enseignants-chercheurs.
Et Benoît de la CGT.
Et du coup, moi, c'est Tristan de Sud Étudiant. Donc aujourd'hui, une émission, on va commencer par parler de la COMUE. Alors la COMUE, c'est la Communauté d'Universités et d'Établissements, l'Île-Nord-de-France. C'est une espèce de superstructure qui a été créée suite à la loi de 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui avait pour but de rassembler, de forcer les établissements à coopérer. Et la particularité de notre COMUE Lille-Nord-de-France, c'est qu'outre le fait qu'elle regroupe des établissements publics, donc les 6 universités de la région, donc Lille 1, 2, 3, Artois, Valenciennes et Littoral, elle regroupe aussi comme membre fondateur la CATO, dont le nom juridique est Fédération Universitaire Polytechnique de Lille, si je ne me trompe pas. Et donc c'est la seule commune en France où un établissement privé, qui plus est confessionnel, est membre à part entière d'une commune. Donc spécificité malheureuse, s'il en est.
Spécificité nordiste, on peut dire.
Nordiste,
en fait. C'est ça. Précisons, pour être parfaitement, il y a 3 universités catholiques, universités, 3 établissements qui usurpent l'appellation d'université en France, puisque outre Lille, il y a également à Lyon où il y a un institut catholique qui pratique l'enseignement supérieur, et il y a Angers également, et dans les deux, à Lyon comme à Angers, les instituts catholiques, quel que soit leur intitulé et qu'ils prennent exactement, sont dans leurs communes respectives, mais en tant que membres associés et non pas en tant qu'établissement associé et non pas en tant qu'établissement membre. Et la particularité du Nord, donc, c'est que l'établissement membre est dans le bureau de la commune et aussi également les personnels de cet établissement privé va participer aux élections des conseils centraux.
Alors,
ce qui est donc une prérogative assez lourde et ce qui confusera assez largement. Une petite précision avant sur ce que tu as dit. Il y a les universités, il y a aussi 2 EPST, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, qui sont le CNRS et l'INRIA, pour la commune Île-Nord-de-France. L'INSERM a décliné finalement, il sera simplement associé. Mais c'est un point extrêmement important dans ces communes, c'est-à-dire que ça rassemble bien tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, et que quelque part, les esprits chagrins, que nous sommes syndicalistes, nous sommes des freins à la croissance, on critique tout le temps tout, chacun le sait, les esprits chagrins voilà comme le début du démantèlement de ces EPST, et à commencer par le CNRS qui du coup va être là membre au milieu de l'université sur des prérogatives qui vont devenir assez compliquées. Ce point là est assez important. Et pour terminer ma brève intervention avant de continuer, on laisser la parole à Moussa et à Benoît éventuellement et de continuer sur le débat, l'analyse qu'on en fait, au-delà de ces communes, c'est vrai que quand on présente ça, on a l'impression que c'est la technostructure qui s'est déchaînée en rajoutant une énième strate, comme ils aiment tant en faire, pour continuer à nourrir l'armée mexicaine, cette armée célèbre où il y avait plus de généraux que de soldats. Et c'est vrai que ça y ressemble, c'est-à-dire qu'on met à chaque fois, il y a des responsables en plus, des responsables, il y a de moins en moins de travailleurs puisque les postes disparaissent, mais alors par contre on accumule les strates de couches de décision, etc. Mais ça serait une analyse sans doute un peu courte que de penser, que de ne voir là que un plan d'une technostructure déchaînée. C'est quand même quelque part un vaste plan de restructuration de l'enseignement supérieur de la recherche, une restructuration comme a pu en connaître le monde industriel dans les années 80, je pense aux mines, à la métallurgie, etc., ou comme a pu connaître les postes et les télécoms, par exemple, dans les années 90. On est bien dans une restructuration extrêmement pilotée, très politique, qui vise à démanteler littéralement le service public d'enseignement supérieur de la recherche afin de, comme l'a chanté si bien cette Europe ultralibérale que nous combattons, d'ouvrir grand les portes de la concurrence libre et non faussée, et donc les portes de la privatisation et du marché de la connaissance, qui était l'un des mots d'ordre de ces grandes conférences qui avaient eu lieu au début du siècle à Lisbonne et à Bologne.
Oui, tout à fait, sachant que sur la question de la commu, pour l'instant, bon, c'est vrai que tu as parlé de prérogatives spécifiques à ces communautés d'établissement, bon, mais pour l'instant, elles ne sont pas très nombreuses, mais disons que globalement, la tendance, justement, va être de faire gérer un maximum de choses par cette superstructure. Je voulais rajouter un élément sur la question, en fait, on voit qu'ici, effectivement, la commu, pour nous, actuellement, c'est une commu à l'échelle de la région, en fait, hein, de la région Nord-Pas-de-Calais. Ce qu'il ne faut pas oublier maintenant, c'est que dans le redécoupage régional, dans la fusion des régions, nous allons aussi avoir... on ne sait pas trop comment ça va se passer à ce niveau-là, justement, avec la fusion, donc avec...
La Picardie
en particulier, donc, et ses pôles universitaires, parce que nous avons des pôles universitaires également en Picardie, commencé par Amiens, qui est une grande ville universitaire, etc., etc. Donc voilà, ce sont des superstructures, comme tu le disais. Alors on voit bien que dans ces superstructures, l'objectif, c'est d'éloigner les centres de décision du quidam moyen, c'est-à-dire de l'usager et des personnels. Hein, donc, et effectivement, donc, ces superstructures-là, à notre niveau, ne nous semblent pas les plus appropriés à même de résoudre les problèmes que pose actuellement l'enseignement supérieur à la recherche.
Une petite précision sur ces communes. Je ne sais pas si on a précisé que c'était un statut d'université, contrairement à ce qui était précédemment. Donc, c'est-à-dire que ce sont des universités à part entière, avec toutes les prérogatives d'université, même si c'est un bocal qui englobe des universités, mais qui elle-même est une université. C'est une forme de mise en abîme assez invraisemblable, mais enfin, c'est comme ça. Et ce qui change beaucoup de choses, puisque justement, il y aura des personnels attachés explicitement à cette commu, et donc elle aura des pouvoirs qui seront considérablement renforcés, si je puis dire, en tout cas les présidents de commu et autres, par rapport à ce qu'avait pu être un temps
les presses,
les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, qui n'ont jamais vraiment trouvé leur place dans le paysage et qui là, pour le coup, personne n'avait vraiment jamais bien compris exactement à quoi servait le presse. Là, clairement, la commu, on ne sait pas encore exactement à quoi ça va servir, mais l'analyse syndicale garantit que, malheureusement, quand on va comprendre, il sera trop tard, déjà, et ça sera sans doute assez violent pour beaucoup de monde. Tu as bien parlé de l'éloignement
des
agents. Hein,
ouais,
évidemment,
des agents.
C'est la commu, l'île Nord-de-France, je crois que c'est quelque chose comme 9500 personnels. Alors, 150 000 étudiants. Je veux dire, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Enfin, je veux dire, on est où, là? C'est tout à fait énorme.
On est dans une multinationale, en fait.
c'est quelque chose vraiment de colossal. Le tout réparti sur le territoire Nord-Pas-de-Calais, étendu sans doute à la Picardie. Il y a Compiègne,
il y a
aussi.
Il y a l'université technologique de
Compiègne en Picardie, dont le sort, où elle trouvera sa place, on ne sait pas trop. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les décisions seront lourdes, puisqu'elles vont décider de la carte de formation d'enseignement supérieur de façon autoritaire, si je puis dire. La commu aura autorité pour supprimer des formations si elle considère qu'il y a des doublons sur le territoire Nord-Pas-de-Calais, sur le territoire de la commu, d'ouvrir des formations si elle considère que c'est un enjeu stratégique pour la région à nouveau. Donc on le voit bien, c'est un élément décisif de la régionalisation du service public d'enseignement supérieur et de recherche. Mais c'est également elle, je crois, qui va négocier ce fameux plan quinquennal entre l'État, la région et les universités pour cet aspect-là, qui est donc aussi une grosse prérogative. Et s'agissant soit des écoles doctorales dans le Nord, il y a également, alors encore des sigles, tous les très compliqués, mais il y a l'ESPE qui va être attaché à la commu. L'ESPE, c'est l'ex-IUFM. Bref, c'est l'école qui forme les enseignants
du
primaire et du secondaire. Donc tous les profs ou les instits passent par cette école de formation, cette école supérieure du professorat et de l'enseignement, qui lui aussi est rattachée à la commu, ce qui en soi est cohérent, puisque c'est bien une prérogative académique et donc régionale, mais qui montre bien le pouvoir grandissant qu'aura cette commu au fur et à mesure. Et un dernier point, s'agissant des postes, on est dans la fonction publique, c'est important, la publication des postes créés dans les années qui viennent, il est important que la commu, elle, sait déjà combien elle aura de postes dans les années 2016, 2017, 2018, donc sur un plan pluriannuel, et ce sont des volumes assez importants. On parle d'entre 20 et 25 postes chaque année créés pour la commu, qui montre bien que ça sera des travailleurs qui aura derrière, ils ne seront pas payés à rien faire. Donc ça sera bien pour pour faire des choses, mutualiser, assurément, sans doute, un nombre grandissant de services, et bien entendu administrer, suradministrer peut-être, l'ensemble d'un certain nombre de prérogatives qui actuellement sont attachées aux établissements.
Juste une petite précision, tu parlais tout à l'heure de l'ESPE, la commune va aussi gérer en partie les écoles doctorales et notamment toute la formation doctorale, ce qu'on appelle aujourd'hui le collège doctoral, donc c'est les formations auxquelles nous doctorants on doit s'inscrire pour avoir des crédits quand on est en thèse, des formations qui sont très orientées vers le privé, qui sont des orientations qui ne sont pas forcément adaptées à toutes les thèses, à toutes les disciplines, à toutes les volontés professionnelles du doctorant. Donc voilà. Et juste pour préciser ce que tu disais sur la régionalisation, ça va avoir des conséquences concrètes sur les personnels, sur les étudiants, qui est que si on a mutualisation, si on a suppression ou fusion de filières ou de diplômes dans la région, ça va avoir une conséquence, c'est la mobilité forcée des personnels et des étudiants, avec... on voit ça venir, c'est-à-dire que vont être principalement concernés les étudiants qui sont aujourd'hui sur le littoral, à l'Artois, à Valenciennes, plus qu'à Lille, même si sur certaines spécialités, je pense qu'il va y avoir un retour pour contenter ces universités et pour les forcer à continuer à marcher dans le bon sens qui est voulu par le gouvernement. Mais voilà, il va y avoir une mobilité forcée réelle des étudiants avec des conséquences sur le prix des transports, sur le logement, sur tout ça, etc. Dans les années 80-90, vous me corrigerez peut-être, mais la région avait voulu créer énormément d'universités à l'échelle, on va dire, des universités de proximité pour que les étudiants, pour démocratiser l'enseignement supérieur. Ça avait compensé un faible effort en termes de logement étudiant et pas forcément un grand effort en termes de transport. Quoique sur le rail, on est quand même mieux loti que d'autres régions. Mais du coup, ça va avoir des conséquences concrètes si aujourd'hui on tend à diminuer l'offre de formation de ces universités de proximité.
Une précision effectivement sur la création des universités. C'est en 90 et c'était au niveau national, la création des universités dites régionales. C'était à l'époque Jospin, ministre de l'Éducation nationale de Mitterrand, qui avait lancé ce mouvement de création massif d'universités. Il y avait déjà l'université à l'époque de Lille-Flandre-Artois, qui était le nom de l'université Lille 1 à l'époque, s'étendait jusqu'à Béthune. C'était avant que, du coup, il y ait création de cette université d'Artois.
Jusqu'à Valenciennes, on peut dire, parce que Valenciennes était une antenne de l'université lilloise à l'époque.
Tout à fait. Voilà, donc c'était bien cette régionalisation, mais par création d'universités. Là, on voit, c'est des mouvements, alors des fois c'est comme ça, des mouvements qui sont plutôt à l'éclatement ou plutôt à la recondensation. Là, on voit bien à la condensation, on a parlé de la commune, on a parlé de la grande université de Lille, ou la très grande université de Lille, tant qu'on y est, qui est en train de se faire justement au même titre, dans le même mouvement de ces communes, donc un mouvement de reconcentration, si je puis dire, mais qui conduit, dans tous les cas, à un pouvoir croissant de la région. Le point que je voulais ajouter également, c'est justement ces communes vont connaître une phase d'élection. Il va y avoir des élections à la commune. C'était aussi un peu la raison pour laquelle on en parle dès aujourd'hui. Ça sera le 19 novembre 2015. Les personnels et les étudiants de la commune seront invités à voter. Alors c'est évidemment c'est une parodie de démocratie. C'en est risible d'ailleurs, puisque dans le conseil d'administration de la commune, il n'y aura que 50% de représentants des personnels. Les 50% restants seront des personnes nommées, mandatées. Donc de toute façon, il n'y aura jamais un rapport de force possible via les représentants des personnels. Ça, c'est le premier point.
Des personnels et des étudiants. C'est-à-dire que personnels plus étudiants, oui, ça ne fait même pas 50%
tout à fait
du total.
J'oubliais les étudiants. Merci.
Mais il n'y en a que 7 sur 60, donc voilà.
Techniquement, je pense qu'on pourrait peut-être faire une petite pause et puis on discutera dans le détail, les questions techniques des conseils et des élections. Ça sera peut-être bien d'informer nos auditeurs sur ces questions électorales.
Ok, et donc je vous propose d'écouter Dégâts des eaux, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas écouté. Il y a un collègue qui m'en a parlé, et en plus ça revient un petit peu sur l'actualité chaude socialement, et montrer que la violence, elle n'est pas forcément là où on dit qu'elle est. Voilà.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité. Bien que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère. Nous vous sommes bien sûr très reconnaissants des efforts que vous avez fournis pour notre épanouissement et de l'argent de votre salaire reversé à l'achat des produits que vous aviez pourtant fabriqués. Je sais, cher monsieur, que vous nous serez reconnaissant de vous avoir aiguillé sur de jolis placements, de vous avoir donné expérience et formation qui vous seront très utiles en ces temps de récession. Sociale se fera entendre. Vous n'aurez qu'à demander au gouvernement d'alors quelles mesures il comptera prendre. Libre à vous d'accepter notre plan de reclassement. Vos familles, amis, projets, tout quitter définitivement. Laissez vos terres et vos racines, respirez l'air de nos usines. Si toutefois vous adoptiez la moindre attitude subversive, vous trouveriez à votre état plus aucune alternative. Sachez que notre groupe possède de nombreux médias et qu'il existe des cibles. Acceptez, monsieur, après ces années écoulées, de bien vouloir, par notre groupe, vous faire profondément remercier. Notre société doit conserver sa place de leader du marché. Veuillez accepter votre sacrifice pour renforcer nos bénéfices.
Et on est de retour en studio, voilà, toujours sur Campus 106.6 FM, l'émission Derrière la vitrine, là où on gratte le vernis de l'université.
Oui, avant de parler effectivement donc de la suite, en particulier des élections à la commu qui auront lieu très prochainement, je pense que tu avais dit les dates, Jean-Marc, mais je ne sais plus, c'était le en novembre.
19 novembre,
voilà, tout à fait. Il faut rappeler, c'était un oubli de notre part, c'est que dans la commu, mis à part les 6 universités dont on a parlé, la Cato, il y a également deux écoles d'ingénieurs qui sont l'école centrale et l'école des mines qui sont partie prenante effectivement des membres fondateurs. Voilà. Donc en termes d'élection, alors c'est très compliqué. Il y aura deux conseils à élire. Un conseil qui est plutôt le conseil, ce qu'on appelle le conseil d'administration, et le conseil le CAC, c'est ça,
le conseil académique.
le conseil académique, qui regroupe à la fois la question des formations et la question de la recherche. Donc à l'intérieur du CAC, il y aura deux commissions, une commission, commission plutôt orientée sur les problématiques liées à la formation et une commission qui sera chargée plutôt des aspects recherche. Donc on peut peut-être parler du nombre maintenant, tu as peut-être le chiffre, Jean-Marc, si tu as les chiffres.
C'est Tristan qui les a, je vais te laisser parler Tristan, mais juste avant, je voulais parler d'une petite élection dont on a peut parler, qui touche aussi la commune, qui aura lieu une semaine avant, qui aura lieu le 12 novembre, qui est l'élection du comité technique de la commune, qui ne touche que les personnels affectés à la commune actuellement, c'est-à-dire une quarantaine de personnes actuellement, puisqu'il n'y a que 40 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 9500 électeurs au conseil d'administration, mais il y aura 40 électeurs au comité technique. Le comité technique, c'est un peu, c'est pour, dans le privé, ça serait un peu les prérogatives d'un comité d'entreprise, si je puis dire. Donc, cette différence d'échelle est spectaculaire. Mais par contre, pour les personnels qui sont attachés à la commu et qui vont passer à 350 quand cette école de formation des enseignants du secondaire et du primaire sera rattachée à la commu l'année prochaine en 2016, vont passer à 350-400 personnels. Le comité technique a un rôle très important en termes de négociation des primes des agents, de temps de travail des agents, de réduction du temps de travail des agents, d'organisation du travail,
des conditions de travail de manière générale.
Des conditions de travail en général. Et ce comité technique jouera également le rôle du CHSCT, donc du comité hygiène, sécurité, conditions de travail, et donc de la santé, de l'hygiène et de la sécurité de tous les travailleurs. Donc c'est très important. Il y aura lieu une semaine avant, juste une semaine, le 12 novembre. Bon, j'imagine qu'il y a peu de personnel de la commune qui peuvent nous écouter en ce moment, mais c'est un point important. Et pour ceux qui sont affectés à la commune, et pour ceux qui le seront dans les années qui viennent, c'est une élection très importante. Voilà. Maintenant, on revient aux élections des conseils centraux, à cet énorme, à ce scrutin d'un genre nouveau, hein, je pense que c'est du jamais vu aujourd'hui, avec les collèges. Donc Tristan va nous détailler ça.
Alors, pour le conseil d'administration,
accrochez-vous. Hein.
Comme le disait Jean-Marc, alors il faut vous accrocher parce qu'il y avait les chiffres. Comme le disait Jean-Marc, pour le conseil d'administration, c'est une démocratie magnifique. On n'a que la moitié des membres, donc la moitié des 60 membres, donc une trentaine qui sont élus. Donc ça reprend en fait le schéma, comme le disait Jean-Marc, c'est un statut d'université, donc ça reprend exactement le même schéma que d'une université qu'avec un conseil d'administration et un conseil académique. Donc, conseil d'administration, on a 8 enseignants pour le collège A. Donc le collège A, c'est les professeurs des universités et les directeurs de recherche CNRS, si je ne me trompe pas. Le collège B, c'est tous les autres personnels d'enseignement, donc ça va être les maîtres de conf, ça va être les ATER, ça va être
les PRAG et PRCE, c'est les personnels détachés du second degré en fait.
Agrégés, tout ça du second
degré. Les agrégés, les certifiés.
Donc voilà, 8 sièges pour le collège A, 8 sièges pour le collège B pour les enseignants, donc avec un fort déséquilibre du nombre d'électeurs selon le collège, impressionnant. 7 représentants pour les BIATS, donc, qui sont les personnels non enseignants, donc bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens.
C'est ça, tout.
Voilà.
Tous les travailleurs qui n'enseignent pas directement, en tout cas. Certains peuvent enseigner, mais donc c'est pour ça que c'est un intitulé un peu compliqué, qu'on ne comprend, qu'on ne pratique que chez nous. Mais ils sont très nombreux parce que, évidemment, souvent on dit personnel administratif, mais ça va bien au-delà de personnel administratif. C'est aussi tous les personnels des services communs, de l'entretien, que ce soit le ménage, que ce soit la plomberie, la menuiserie, etc. Plus tous les personnels qui sont en support à la recherche. Et dans les labos de recherche, ça peut être un nombre assez important. Les ingénieurs, les techniciens qui vont monter les manips, qui vont faire les programmes, qui vont développer, enfin, etc. Donc ce qui fait que ça représente une population qui est de l'ordre, pour faire court, on va dire 40%, 30 à 40% des travailleurs à peu près, si c'est ça, si on sont plutôt 30%, 35% des travailleurs de toute l'université n'enseignent pas.
Voilà, alors donc ça c'est pour le conseil d'administration, donc 8, donc 16 enseignants, donc 2 fois 8, 7 BIATS et 7 étudiants, donc les étudiants, donc tous les étudiants inscrits en formation initiale et continue. Donc ça c'est pour le conseil d'administration, et ce schéma est répliqué au conseil académique dans les deux commissions dont parlait tout à l'heure Jean-Marc, donc formation et recherche. Avec, on va commencer par recherche, donc recherche c'est 12 personnes du collège A, donc professeurs des universités, etc., 8 autres enseignants, collège B, 2 BIATS seulement, qui sont coupés en 2 collèges distincts, et 8 doctorants, donc c'est les étudiants de tous les étudiants de 3e cycle. En commission formation, comme au conseil d'administration, 8 et 8, je crois, pour les enseignants, 6 BIATS,
4
BIATS, voilà. Et 10 étudiants. Donc ça vous donne une idée déjà des rapports de force et de qui d'une certaine manière, sur un conseil d'administration, je vous rappelle, hein, il y a tous ces membres, enfin, c'est tous ces gens, ces élus, hein, qui vont sans doute être élus avec une participation extrêmement faible. Tous ces gens, de toute façon, n'auront pas le pouvoir puisqu'ils ne représenteront que 50% du conseil. Et les autres seront des membres nommés par les présidents actuels, par la région, les collectivités territoriales, les entreprises, enfin notamment le MEDEF territorial.
Oui, même certains d'ailleurs, il y aura un représentant, je pense, des organisations syndicales régionales, je crois un seul, mais c'est dans les statuts tout ça, oui, donc, oui. Effectivement, il y a la région, enfin, comme tu dis, toutes les institutions des collectivités territoriales, etc., sont représentées, plus 2-3 nommés pour faire bonne mesure. Pour pas laisser le pouvoir aux travailleurs, parce que là, il faut quand même pas pousser. Donc, voilà. Donc c'était quand même pour faire.
Oui, ce qu'on appelle des membres institutionnels qui sont en fait qui sont nommés par leur propre organisation. Donc en fait, voilà.
Il y aura le président de l'université Lille-1, il y aura un représentant de la communauté urbaine de Lille ou de Valenciennes, et voilà.
Alors pour aller un peu pour poursuivre un peu dans ce que tu disais, bon, je pose la question à Jean-Marc, mais bon, c'est juste pour faire une pointe d'humour. Étant donné effectivement l'assiduité de nos collègues ici au niveau des élections et puis de la participation qui risque de s'avérer relativement faible à la fois dans le collège des enseignants et enseignants-chercheurs et dans le collège des étudiants, ne va-t-on pas assister à une bérésina avec une forte participation de la CATO, cher Jean-Marc?
Disons qu'effectivement, vu comme ça, on en discutait un peu tout à l'heure hors antenne. En effet, je pense qu'il est à craindre que le taux de participation soit historiquement faible à ces élections. Il y a eu quelques messages envoyés, mais il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne faite pour l'instant. Et faut pas compter que ça soit dans début novembre qu'il y aura une campagne électorale. Il n'y a pas d'assemblée générale d'organiser. Il y a un comité électoral qui s'est réuni. On ne sait absolument pas ce qu'il a décidé. J'ai vu aucun compte rendu, etc. Donc, bref. Donc il y a de fortes chances que la participation des collègues soit très faible parce qu'ils ne sont pas au courant, et s'ils sont au courant, ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Par contre, il peut y avoir des votes fortement catégoriels ou communautaires, voilà, un réflexe communautaire. Donc je vais voter, tiens, je le connais, il vient de chez moi celui-là, alors je vote pour chez moi parce qu'il est plus près de chez moi. C'est rien à voir avec les idées, le machin, mais et on sait que les établissements privés sont, de par leur situation... ont tendance, pratiquent assez ce vote communautaire, c'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment un vote de proximité de l'établissement. Et c'est pour ça que c'est en effet fort probable qu'il y ait du coup une majorité de représentants des personnels de la CATO qui sont des travailleurs, ceci dit, il faut bien le préciser, qui donc de fait doivent être défendus, ont des conditions de travail et ils doivent défendre leur conditions de travail. Mais Cela va poser une question, et il y a une autre question qui va se poser. Comme on a expliqué, et Tristan l'a fait de main de maître, donc vous avez compris que c'est des montages. Il faut vraiment avoir pratiqué ça pendant des mois pour arriver à s'y retrouver dans tous ces collèges, dans tous ces genres. Vous avez bien compris qu'une voix de professeur peut compter 5 à 20 fois une voix d'un biad, etc., etc. Mais c'est tout ça, c'est un peu la fonction publique. Vous êtes, selon votre concours et votre qualification, donc votre diplôme et le concours que vous avez passé, vous êtes rangé dans des catégories, dans des corps, dans des grades. Tout cela est assez bien organisé, on peut en penser ce qu'on en veut, mais ça a le mérite d'avoir une organisation, et chacun sait où il se trouve dans cette organisation. Ce qui n'est pas le cas d'un établissement privé, où là c'est le droit privé qui s'applique avec un CDI, un contrat. Bon, t'es un travailleur, t'as un contrat, mais dans ton contrat, on met ton salaire, et on dit pas ce que tu vas faire. On dit pas, tu vas être ingénieur, tu vas être enseignant, professeur, ou tu vas être enseignant, maître de conférence, ou tu vas être machin. T'as un contrat, et éventuellement on dit la grille, éventuellement on va dire les conditions du contrat, mais ça posera la question de tous ces électeurs issus de l'Institut catholique. Où est-ce qu'on les range dans tous ces collèges, dans les professeurs?
Tu veux dire la Fédération universitaire polytechnique de Lille?
Voilà, je dis l'Institut catholique, que l'on appelle abusivement université catholique, ou la CATO. Mais bref, ça pose cette question-là, c'est une question intéressante. Et par contre, il est à craindre, en effet, qu'il y ait un fort réflexe de vote en se disant de précaré, on va voter pour nos amis. Il faudra voir, faudra voir. Mais
la vraie question, en fait, lorsqu'on regarde cette élection, c'est pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi n'a-t-on pas imposé le fait que, pour qu'une liste soit valide, elle doit comporter au moins trois, cinq établissements d'origine, en fait, des voilà. Est-ce qu'on sait pourquoi?
Oui. Là, de fait, j'ai un élément de réponse, puisque ça devait être c'était prévu comme ça dans les statuts initiaux. Ouais. Alors, c'était assez curieux. Il fallait que 75% des établissements soient représentés sur toutes les listes. Ce qui arrivait à des problèmes mathématiques assez intéressants, puisqu'il y avait, on l'a compté, il y a 6 universités, 2 écoles, 2 EPST. Donc, ça fait 6 plus 2 plus 2, 9 plus la CATO, ça fait 10, au moins 10, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Voire 11. Et 75% de 10, ça fait 7,5, donc on va dire 8. Ouais. Et il y a un collège Biatz qui a 7 personnes. Donc, c'est-à-dire que même s'il y avait eu un de chaque, on était en dessous des 75% des établissements présentés. Mais de fait, cette disposition a sauté, non pas parce qu'ils se sont dit les mathématiques sont implacables et jamais on pourra atteindre ce chiffre dans certains collèges, surtout un collège où il y a 1. Ça permettait aussi des questions intéressantes. C'est simplement une disposition législative qui est sortie à cette occasion-là pour un établissement du ministère de l'Agriculture, pour vous dire, et bref, ça... Et donc, ils ont passé ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire que dans un grand texte de loi, protéiforme, c'était peut-être la loi Macron, c'était peut-être une loi sur autre chose.
C'était la loi sur l'agriculture, la loi d'orientation sur l'agriculture, je crois.
Ah ben, c'était peut-être ça. Ils ont placé un petit amendement à la con, là, qui dit que, cette disposition... disparaît et qu'il n'y a plus cette obligation que sur une liste de candidats il y ait une pluralité d'établissements représentés. C'est donc le gouvernement qui a fait sauter cette obligation qui était prévue dans les statuts initiaux et qui a donc disparu.
D'où la question de savoir si on ne va pas ressortir avec finalement un résultat unicolore à la fin de ces élections.
La question est judicieuse parce que dans les règlements qu'ils ont envoyés à tout le monde, etc., il est marqué les listes doivent respecter la diversité des établissements. Cette diversité ne constitue pas un motif d'invalidation des listes. Donc voilà, faites de la diversité, mais si vous en faites pas, on vous disputera pas, on vous fera rien. Et alors, en plus, ce que tu répondais sur la mobilisation de la CATO, ça va se poser au niveau du nombre de bureaux de vote. C'est-à-dire que, alors, je sais pas comment ça s'est fait, je ne suis pas dans les petits papiers des présidents d'université, mais le nombre de bureaux de vote par université est très variable. Vous allez à Valenciennes, vous avez un bureau de vote pour tout le monde. À Lille-1, c'est pareil, il y a un bureau de vote à réflexe. Donc déjà, allez expliquer aux étudiants où c'est réflexe. La résidence réflexe qui est près de l'IUT.
Une petite précision sur l'université Lille-1, donc c'est le campus
et y a l'IAE et
Villeneuve-d'Ascq, là où se trouve Radio Campus d'ailleurs, ouais. Pour ceux qui connaîtraient Radio Campus. C'est un campus assez grand. Donc cette résidence réflexe, une nouvelle résidence assez chic, c'est chic pour mais qui est très bien, qui est assez confortable, elle est toute neuve. Donc ça sera à cet endroit-là, on le trouve facilement, c'est à côté de l'UT effectivement, mais il faut préciser quand même qu'il y aura deux autres bureaux de vote pour Lille 1, l'un à Vimereux, donc c'est la station marine de l'université Lille 1 à côté de Boulogne-sur-Mer, et l'autre à l'IAE,
dans le centre-ville,
dans l'ancien hôpital, je sais pas quoi, de Louis XIV, ou
avenue du peuple belge.
Voilà, c'est ça, donc il y aura quand même trois établissements, et je ne crois pas qu'il y ait d'autres antennes.
Non, pour Lille 1, je crois que c'est tout.
Après, le QEP a rapatrié les antennes qu'il pouvait avoir à Tourcoing, à Salomine ou à Lille Centre. Donc, me semble-t-il, il n'y a pas d'autres sites.
Voilà. Et par exemple.
Et à Lille 2,
À Lille 2, il y a un bureau de vote par composante parce qu'à Lille 2, il y a la chance que c'est les élections au conseil de composante pour le collège usager. Donc, eux, ils ont réussi à grouper ça avec une élection au conseil de composante. À Lille 3, il y aura un bureau de vote. Je crois que c'est pour tout le monde un bureau de vote sur campus de Villeneuve-d'Ascq, un bureau de vote pour les LEA à Roubaix et un bureau de vote à l'IUT de Tourcoing. Mm-hmm. Pour Valenciennes, il n'y aura qu'un bureau de vote. Je crois que pour l'Artois et Littoral, il y a un bureau de vote par composante ou au moins par site. Je ne suis plus sûr.
J'imagine qu'ils vont s'organiser par site.
Je ne sais pas. Voilà. Je crois que le Littoral, c'est par site et que l'Artois, c'est par composante. Alors, je ne suis pas sûr, il faudra vérifier. Et pour la CATO, qui est concentrée, alors, qui a une antenne à Roubaix, parce qu'en fait, l'EDEC
est à Roubaix.
Et l'EDEC est membre de la FUPL, donc la CATO. Tout le reste de la CATO est concentré sur le quartier Vauban. Et là, vous avez une douzaine de bureaux de vote sur le quartier Vauban. Ce qui est magnifique parce que ça va permettre une mobilisation exceptionnelle, etc. Tandis qu'ici, à Lille 1 ou même à Lille 3, on va se retrouver avec un seul bureau de vote. Donc, heureusement qu'il y aura une faible participation parce que sinon, on va faire une heure la queue pour aller voter. Et je pense que ni les personnels ni les étudiants n'ont le temps de passer une heure pour voter, malheureusement, parce qu'ils n'en ont plus le temps, parce qu'ils ont des cours, parce qu'ils ont des heures, des pointeuses. À Lille 2, on a des pointeuses. Les personnels ont des pointeuses. Donc voilà, des aberrations comme ça sur la répartition des bureaux de vote, des aberrations sur les listes électorales. On fait des élections en novembre alors que par exemple au niveau des troisième cycles, tous les doctorants ne sont pas encore inscrits parce que les limites d'inscription c'est plutôt fin novembre, qu'on se retrouve avec des gens qui n'ont même pas encore leur autorisation d'inscription à l'université, à qui on demande de voter et à qui on leur dit mais vous n'êtes pas sur la liste électorale. Et on se retrouve avec des listes électorales qui intègrent ce que je disais tout à l'heure. On nous a dit qu'il y avait à peu près 3000 doctorants dans la région. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu.
C'est à peu près le nombre.
C'est à peu près le nombre. Et sur les listes électorales du collège doctorant, en commission recherche, vous avez 500 personnes. Ça vous donne une idée de l'aberration démocratique dans laquelle on est.
Il y a une déperdition.
Voilà. Une déperdition. Alors, certes, il y a les ATER qui sont dans d'autres collèges. Il y a des doctorants qui sont dans d'autres collèges, on l'admet, mais il y a une déperdition énorme. Donc voilà, donc.
On fait une petite pause.
Une petite pause peut-être là. Après ces chiffres et ces.
Zoé. Zoé, aujourd'hui j'ai 8 ans. Les mots qu'on m'avait appris ont disparu. J'ai du mal à faire des phrases construites comme il faut. Et pour une fois j'en ai pas envie, c'est comme si mon esprit était à moitié éteint, qu'une partie était restée avec toi là-bas. Le paysage défile par la fenêtre du train qui nous emmène à nouveau et je me dis c'est beau les plaines, c'est beau le mois de juin, c'était beau hier, c'était beau ce matin. C'est beau les filles quand les choses sont douces, sans violence ni dépit, j'avais failli oublier depuis le temps. Cette nuit à côté de toi c'était comme du lait, comme du coton, qui m'ont enveloppé de nulle part. Si on me l'avait dit j'y aurais pas cru, alors je me repasse le film, on continue. Les images de la veille se superposent aux détails du wagon. Elles flottent devant mes yeux comme sur la houle. Je te revois perdu dans la foule avec tous ces mongols bourrés qui dansent n'importe comment. Et je me revois moi essayant de t'atteindre en évitant les gens qui hurlent et font des grands gestes absurdes. Et toi qui attends terrorisé au milieu du chaos. Et puis tes joues et puis ta peau. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas. Je me suis perdu, j'ai bu la tasse pour les bras d'une infirmière, je me suis conduit comme une trace. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas. Mais si tu me jures que tout ça c'est du passé, alors d'accord, on tire un train, on commence à s'apprivoiser. Zoé, Zoé, aujourd'hui j'ai 8 ans et je voudrais que ça dure un peu. J'écoute absolument pas ce qu'on me dit, je fais semblant d'être assis à mon siège. Les gars me parlent, mais c'est comme si on était de part et d'autre d'une porte vitrée. Je regarde le paysage défiler par la fenêtre du train qui nous emmène à nouveau. Et je me dis, c'est beau les champs, c'est beau le mois de juin. C'était beau hier, c'était beau ce matin. C'est beau les filles quand il n'y a pas de peur, pas de dégoût, pas de mépris, quand les choses sont limpides. Cette nuit à côté de toi, c'était comme une lueur dans les profondeurs. Je me suis enfin senti reprendre des couleurs. Si on me l'avait dit, j'y aurais pas cru. Alors je me repasse le film, on continue. Les images de la dernière fois se superposent aux détails du wagon. Elles dansent par-dessus le monde matériel. Je te revois sur l'herbe au bord du fleuve. Je revois la forme des nuages, le péage, les routes, les villages. Et je nous revois dans la nuit chaude tout à l'heure. Le vent dans tes cheveux, les lampadaires qui défilent en orange. Et toi qui t'excuses en pleine rue. Et puis tes larmes et puis tes bras. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas. Je me suis perdu, j'ai bu la tasse pour les bras d'une infirmière, je me suis conduit comme une crasse. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas. Mais si tu me jures que tout ça c'est du passé, alors d'accord, on tire un train, on commence à s'apprivoiser. Zoé, Zoé, aujourd'hui j'ai 8 ans et j'espère que toi aussi. Je t'imagine en train d'émerger doucement de cette nuit un peu courte, ton pas léger sur le béton nu. Je croise deux doigts pour que tu sois comme moi dans un état un peu second. Et que tu regardes rêveuse les rails au loin en espérant voir passer le train qui nous emmène à nouveau. Et que tu te dis, c'est beau l'été, c'est beau le mois de juin, c'était beau hier, c'était beau ce matin. C'est beau les garçons quand ils sont gentils et droits, qui sont vertueux même s'ils sont un peu maladroits. Cette nuit à ses côtés c'était spécial et nouveau. Moi qui pensais te connaître je me suis trompé, si on me l'avait dit j'aurais pas cru. Zoé, j'espère que tu te repasses le film en continu. Que les images se superposent aux détails de ta chambre, qu'elles flottent au-dessus de ton lit défait. Quand on a traversé la ville dans la chaleur naissante et que sur le coup la crasse et la laideur ont paru presque supportables. Zoé, j'ai peur de souffrir comme toi, je suis plus habitué à ça. Je sais pas où ça va nous mener, mais je crois qu'il faut qu'on se donne les moyens d'être fixé. Il faut qu'on se revoie. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas. Je me suis perdu, j'ai bu la tasse pour les bras d'une infirmière, je me suis conduit comme une crasse. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas. Mais si tu me jures que tout ça c'est du passé, alors d'accord, on tire un trait, on commence à s'apprivoiser.
Donc de retour sur Radio Campus 106.6. Donc c'est toujours derrière la vitrine, l'émission des syndicalistes des universités lilloises, donc CGT, FSU et Sud, présents aujourd'hui en tout cas.
Et nous pouvons nous retrouver, pardon, je t'interromps, sur campuslille.com.fr.
Les deux.
Réécouter cette émission pendant deux mois sur le site de Campus Lille.
Voilà.
Et donc un petit point, on a déjà un peu parlé la semaine dernière, mais du coup mercredi 4 à 18h il y aura une réunion des usagers, donc étudiants et aussi personnel de la maison des étudiants de Lille 1. La maison des étudiants, c'est, alors pour nous à Lille 1 ça semble assez courant, etc., mais c'est une exception dans le paysage universitaire. Donc c'est un lieu où sont actives les associations étudiantes, où on organise des événements, où il y a une cafétéria associative l'après-midi et le soir, il y a une cafétéria Crous le midi. C'est assez exceptionnel dans le paysage universitaire, mais c'est un service qui n'est pas exempt de problèmes, et surtout qui subit lui aussi les conséquences de l'austérité, parce que quand il y a moins de personnel à l'université, quand il y a moins de personnel pour la plomberie sur tout Lille 1, bah, les toilettes de la MDE, c'est un peu les dernières toilettes qui passent dans les réparations, ce qui crée pas mal de problèmes, parce que la MDE est extrêmement fréquentée. Je crois que les chiffres, si on cumule les présences aux événements, c'est comme si tous les étudiants de Lille 1 étaient venus au moins une fois à la MDE dans l'année universitaire, et je crois qu'on est à plusieurs centaines minimum d'étudiants qui fréquentent la MDE chaque jour, et notamment suite à l'installation notamment avec les cafétérias, mais aussi avec les soirées qui sont organisées chaque soir. Et du coup cette réunion, c'est pour faire le point entre associatifs, entre étudiants, entre personnel de la MDE aussi, je pense, entre syndicalistes aussi, sur quels sont les problèmes qui sont rencontrés dans la MDE, comment on peut s'organiser nous, comment on peut proposer des solutions, et comment aussi on peut essayer de se mobiliser s'il se révèle qu'on nous dit non parce qu'il n'y a pas de budget, parce qu'il n'y a pas de sous. Donc c'est aussi un moyen de se mobiliser sur des conditions concrètes, sur des implications concrètes de l'austérité à l'université dont on avait parlé lors de la première émission. Donc voilà.
C'est quand?
Alors c'est mercredi 4 novembre à 18h à la maison des étudiants, du coup.
Donc c'est bien l'ensemble des associations étudiantes, associations, ouais, syndicats étudiants.
Les associations et syndicats qui étaient au conseil permanent. Donc du coup, pour les citer, il y avait donc ABL, il y avait Sud, il y avait, je crois qu'il y a ESN, il y a AD à la carte, il y a plein de gens comme ça qui vont venir à l'AG. À la réunion des usagers, le but c'est pas non plus de faire une grande AG de mobilisation, mais c'était au moins de discuter, d'échanger sur nos problèmes, sur les solutions qu'on propose d'apporter, etc.
Et ouais, c'est important de rappeler ça, et de rappeler que c'est donc un fonctionnement qui a vocation à être de plus en plus démocratique, et que c'est bien aux étudiants, à un moment donné, idéalement, de prendre en main
C'est la maison des étudiants.
C'est la maison des étudiants. Alors, comme c'est à Lille 1 et c'est un bon esprit, il y a aussi des personnels, et évidemment, c'est ouvert au personnel, heureusement, donc c'est un point important, donc c'est un endroit de rencontre, et au-delà, tu l'as rappelé lors des soirées, des concerts qu'il peut y avoir au sein de cette maison, qui a trouvé son rythme, hormis effectivement quelques problèmes d'intendance assez sérieux, qui sont pas seulement liés, je pense, au manque de personnel, c'est aussi sans doute à des défauts de construction, car ça fait partie sans doute dès l'origine, je pense que le dimensionnement, en tout cas les toilettes de l'MDE, n'ont sans doute pas été prévues pour accueillir du public. Ils se sont dit, bon allez, il y aura 10 pelés qui vont passer chaque jour, des choses comme ça. Et c'était construit de façon particulièrement fragile. Hein. Voilà, ça fait partie du quotidien. Tu fais bien de le rappeler que ce n'est pas toujours simple de vivre ou d'étudier à l'université.
Alors si on reste sur le domaine justement, donc... des conditions un peu de vie sur l'université. On a parlé de la MDE. À la MDE, effectivement, il y a une cafétéria Crous où l'on peut effectivement où tout le monde peut venir déjeuner, en fait, prendre un sandwich, des salades, bien sûr. Alors on voit déjà au départ, en fait, lorsqu'on fréquente un peu ce lieu, on s'aperçoit qu'effectivement les étudiants font la queue. Il y a quand même un temps d'attente assez important pour prendre un sandwich pendant les interruptions entre midi et deux. Et donc on voit qu'effectivement, en termes de lieux de restauration, malgré qu'il y ait sur le campus, je pense qu'il y a trois restaurants universitaires, en fait, le Parisienne, le Barois et le Sully, on s'aperçoit qu'effectivement c'est quand même relativement sous-dimensionné quant au public accueilli. Et de même, pour les personnels de cette université, effectivement, on a également des soucis, puisque lorsque l'on veut déjeuner dans de bonnes conditions, il faut venir à l'ouverture à 11h30, sinon après, c'est à peu près une demi-heure de file d'attente pour pouvoir aller déjeuner. Donc c'est des conditions quand même qui ne sont pas très reluisantes et qu'il faudrait certainement améliorer. Je ne sais pas comment, mais il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose autour de cette question.
C'est très important. Ouais, c'est important de rappeler ça, c'est quand même des choses qui sont... au cœur du quotidien des travailleurs. En effet, le reste, il y a une salle réservée au personnel qui est manifestement sous-dimensionnée. C'est un problème qui a déjà été évoqué à de multiples reprises. Il y a des éléments de réponse qui ont été apportés avec en perspective d'ouvrir une deuxième salle réservée au personnel. Mais ça fait partie de ces grandes promesses qui pourraient bien prendre des décennies avant d'arriver. Et il faut dire un mot sur le tarif, parce que le tarif est assez... On paye assez cher, les personnels. Alors, c'est dégressif selon le niveau de salaire. Enfin, plus on gagne, plus on paye. Mais on arrive à des tarifs, puisque on est à 6 euros un repas. Alors, on va dire, bon, effectivement, c'est pas colossal. Mais enfin, ceci dit, ça finit par être des choses... des frais qui ne sont pas négligeables.
Alors que les personnels CNRS, par exemple, on peut parler peut-être de la comparaison des travailleurs du CNRS.
Les grandes entreprises, en général, payent
1,50€, 2€ pour le...
Un peu plus.
Mais bon, pour le CNRS
3-4€.
Ici, au Resto U.
Oui.
Au Resto U.
Oui.
Il me semble que c'était beaucoup moins cher. Bon, voilà.
Moins cher que les étudiants, les personnels CNRS.
Ça, c'est possible. Il y a des endroits où on paye pas plus. Mais là, je pense qu'il paye un peu plus.
Non, parce qu'il y a un soutien, en fait, de l'organisation.
Mais précisons qu'il y a bien un soutien également de l'employeur
de l'université
Lille-1 sur la bouffe. Le montant du soutien, je le sais parce que je l'ai vu ce matin, c'est 78 000 € par an que l'employeur verse pour contribuer à la nourriture, la restauration du midi de ses personnels pour 3 000 personnels quand même. Donc ça fait quand même... Ça fait pas très très lourd. On est à en gros une 35 € que l'employeur verse par an à tous ces personnels pour qu'ils bouffent chaque jour de l'année. Ça fait, je sais pas, on bosse combien de jours par an, un nombre invraisemblable de jours. Je ne sais plus, mais enfin...
Normalement, si en plus, cette trop, émission, elle a lieu pendant l'interruption pédagogique, hein, donc théoriquement, on ne devrait même pas être là, en fait.
C'est la reprise, ça a déjà repris. Mais enfin, ce sont des choses extrêmement importantes, et s'agissant des étudiants, il suffit de voir que les cafétérias, les marchands de bouffe... du métro en particulier, sont pris d'assaut par les étudiants pendant la pause méridienne, là, pendant le midi, parce que les Crous, les différents restaurants universitaires de Lille-1 n'arrivent plus à assurer. Donc il y a des étudiants qui, pour acheter vite fait un sandwich de mauvaise qualité, vont juste non plus au Crous, mais bien dans ces boîtes à bouffe sandwich de la station de métro, que ce soit celle de Cité Scientifique il y en a une à Cité Scientifique, et ça c'est vraiment triste de voir ça, quoi. C'est 30 files d'étudiants qui attendent pour bouffer un sandwich à SNCF.
Surtout en hiver, à la limite, en été on peut comprendre qu'on puisse manger, les jeunes puissent manger des sandwichs, etc., mais on est en hiver et on a besoin quand même d'un repas un peu chaud, et donc...
C'est tout à fait triste, quoi.
Je vais peut-être remettre une petite pause.
Ouais,
et après, nos amis de Sud veulent accueillir un invité.
Si j'avais le pouvoir d'achat, tu jetterais plein d'objets sans fil. Tu jetterais un écran plat. La vie serait plus facile. Je t'achèterais un stylo. Je t'achèterais un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'hospice de mes pieds. Dalle, dalle-moi le pouvoir d'achat. Dalle, dalle-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait acheté. Dalle, dalle-moi le pouvoir d'achat. Je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierai moins d'impôts. Parce que les impôts c'est bien fait. Je m'achèterai un barbecue avec un allume-barbecue. Je m'achèterai un rat de Vélaire pour protéger mon barbecue.
Puis je placerai 1000 euros à l'excellent taux de 4%. Ce qui me fera au bout de 10 ans, et la coquette somme de 400 euros. 400 euros, c'est très important. je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus, toujours un peu plus. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez, donnez-moi le super marché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant.
Radio Campus 106.6, donc dans Derrière la vitrine, émission des syndicalistes de l'Université de Lille. Et je vais tout de suite passer la parole à Adeline, parce qu'en fait, pour les dernières minutes d'émission, on a un invité et dessus l'étudiant pour une petite conférence qui a eu lieu hier. Et du coup, voilà, je vais lui passer la parole pour la petite interview.
Bonjour Adeline. Donc aujourd'hui, on accueille Yacine Douman, qui est un doctorant à l'Université de Sabancı à Istanbul et qui enseigne le kurde à l'Institut kurde d'Istanbul. Il va nous parler aujourd'hui de la campagne des livres pour Rojava qui a été lancée par le syndicat Solidaire étudiante en février 2015 et dont l'objectif était de récolter des livres pour l'académie de Rami Shlo, nouvellement créée en septembre 2014. Hi Yacine.
Hi.
So, la première question va être sur comment s'est passée la campagne. How did the campaign started?
Okay, so I was there when the academy was opened, Academy of Social Sciences of Mesopotamia in Rami Shlo.
Il était là donc quand l'académie de Rami Shlo a ouvert.
I was doing my field research for my thesis.
Il était en train de faire son terrain de recherche pour sa thèse.
And after the academy opened, I sat with the students and the teachers at the academy, and we asked that question: how we can help the academy.
Et à la fin de la cérémonie d'ouverture, ils ont demandé aux professeurs et aux étudiants qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour aider l'académie.
And because the academy was established in the middle of a war, we thought that the best thing that we can do right now is to establish a multilingual library for the academy.
Et puisque l'université se trouve, enfin l'académie se trouve en plein milieu d'une guerre, parce qu'elle se trouve en Syrie, avec les armées de Daesh qui avancent à côté. Donc l'idée c'était de faire une bibliothèque multilingue.
And this is how we started, and we opened the Facebook page, and so many people around the world sent solidarity messages and their books to us.
Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ils ont fait une page Facebook pour la campagne et ils ont reçu des centaines de messages du monde entier.
Yeah, in a very short time, we collected around 1,500 books.
Et en très peu de temps, ils ont réussi à collecter 1,500 livres.
And now the books are coming from France, England, and United States, and some other countries in Europe.
Et maintenant, les livres viennent de France, du Royaume-Uni et des États-Unis.
And as well as from the Middle Eastern countries, they send books in Arabic and Persian.
Et aussi des pays du Moyen-Orient qui ont envoyé des livres en arabe et en persan. Will it help the academy to have this collect? Est-ce que ça va aider l'académie d'avoir cette collecte?
I think it will help a lot because the students in the Mesopotamia Academy need to find different resources in different languages.
Oui, on pense que ça va aider parce que les étudiants dans cette académie ont besoin d'avoir des ressources dans différentes langues.
Because the education system in Mesopotamia Academy is a combination of the traditional communal learning in the Middle East.
Parce qu'en fait, le système d'éducation qui est mis en place dans cette académie, c'est une combinaison entre le système d'apprentissage commun du Moyen-Orient.
And the tradition of the Western understanding of science, which criticizes always.
Et l'approche occidentale, qui est une approche de critique constante de la science.
And I think what we did with the book campaign is exactly helping this understanding, the combination of different resources in the same place.
Et donc cette campagne, le fait d'avoir une bibliothèque multilingue, c'est vraiment l'idée de cet enseignement, d'avoir la combinaison de différentes ressources.
Yeah. And one thing that I can say that to the audience is that Mesopotamia Academy needs help of many people, so it's in Rojava. It's not only the war, but there is also social and educational and economical construction. So whoever wants to help Rojava, there are so many ways that they can help.
Juste une chose que Yacine veut dire au public qui nous écoute, c'est que l'académie de Mésopotamie et la révolution qui se passe au Rojava, c'est une situation de guerre, mais c'est aussi aussi une société qui est en train de se reconstruire et de mettre en place des systèmes éducatifs et politiques.
Yeah, so
donc il y a beaucoup de manières de pouvoir aider le Rojava.
So I have been there, for example, I taught Kurdish English classes, methodology classes, and introduction to peace and conflict courses, for example.
Donc il a été là-bas, il a fait des cours en grammaire, en méthodologie et en résolution des conflits.
And anyone who is from France, for example, can also go there and teach French, and that would be great for the academy.
Et n'importe qui de France, un professeur, un étudiant en thèse ou en master, peut aller là-bas pour venir enseigner. Ce serait vraiment très intéressant et très enrichissant pour l'académie.
So, yeah, this is all, and thank you very much. Good luck with your next programs.
Donc c'est bon. Merci beaucoup et bonne chance pour la fin des programmes.
Merci à vous deux. C'est passionnant cette expérience. Je ne sais pas si on peut compléter par quelques questions. Ah non, on est parti. Mais en tout cas, merci à vous et merci d'avoir fait le déplacement. Et quant à nous, ben on va se terminer là, puisqu'en fait je vois que l'heure a passé. Et donc salut à tous, bonne semaine, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Nouvelle émission derrière la vitrine, même endroit, même heure, 14h le jeudi sur Radio Campus Lille, 106,6 MHz. D'ici là, bien entendu, restez fidèles à nos programmes. Salut à tous et à la semaine prochaine.